Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche du métier.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise,
notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Vous savez pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues pas grand,
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tomber en panne de pauvre. C'est tant que je connais pas. Sans quoi, tu dis, jamais je tomber en panne.
Aujourd'hui, mercredi 3 août, c'est la Saint-Papendiaye, et le saint patron des Noirs qui font des efforts pour s'intégrer. Ceux qui ont appris leur leçon de bonne manière. Et tout commence un beau jour de 1965, quand les parents de Saint-Papendiaye lui donnent naissance. Dans un milieu étrange, c'est vrai, la bourgeoisie de gauche. Peut-on à la fois être noir et bourgeois au pays de Bugeaud et de Gaulle? C'est la question existentielle qui va poursuivre Saint-Papendiaye jusqu'à sa canonisation au printemps de l'an de grâce 2022. Oui, être noir dans cette France, c'est être opprimé. Mais être bourgeois? Saint-Papendiaye tirera de sa première qualité, la négritude, un grand nombre de leçons que tout camarade juste un peu bronzé peut tirer, hein, en se promenant dans la rue, lors d'un contrôle policier, en entrant dans un commerce, à la porte d'une boîte de nuit, etc., etc. Mais sa seconde qualité, à savoir le fait d'être un bourgeois, va pousser le jeune diplômé de l'école des hautes études en sciences sociales à confronter sa négritude à un milieu qui, quoique hostile et foncièrement raciste, développe une hypocrisie et un mépris de classe que seuls les grands diplômés peuvent pratiquer. Dès lors, la contradiction dans laquelle se débrouille Saint-Papendiaye est la suivante. Comment concilier sa négritude avec son appartenance à la classe dominante, héritière du colonialisme et du racisme d'État? Il fallait alors ou déjà moins jeune adhérent du Parti Socialiste, vous noterez le début de la chute, envisageait de coloniser à son tour les hautes sphères de la bonne bourgeoisie. Alors, loin des femmes de chambre, déjà des balayeurs et des ouvriers du bâtiment, loin des agents de sécurité, et même finalement assez loin de N'Golo Kanté, Saint-Pap Ndiaye, croyant changer la bourgeoisie française, se transforma en bourgeois français. La métamorphose fut lente, progressive, mais au final, sans devenir blanc, Saint-Pap Ndiaye devint ministre de Macron. Ce qui, dans la France des assassins de Adama Traoré, arrangera au moins un camp, celui des exploiteurs. Alors, définitivement débarrassé des scories africaines que tout un prolétariat endosse de son côté, qui en nettoyant les chiottes des bourgeois, qui en construisant leur palais, Saint-Pap Ndiaye, lui, devint ministre, imaginant sans doute marier la chèvre sénile avec le chou du mafé, pour finalement, et définitivement, faire entrer dans l'histoire de ce pays raciste et colonialiste cette petite touche de couleur qui fait si bien sur le CV de ses maîtres. Et puis, l'éducation nationale, c'est quand même là qu'on réussit le mieux à masquer la lutte des classes, non ? Aujourd'hui, mercredi 3 août 2022, le soleil s'est levé, acceptant avec fierté de manger avec tous ces gens qui vantent le colonialisme et la grandeur de l'Occident. Il va se coucher à l'abri avec les bonnes sœurs et dans les arcanes du pouvoir. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campuslille.com.
Ramatoulaye, tu m'as tout l'air de bien aimer les ministères. À ton âge, t'en as vu d'état, de secrétariat d'état. Pour le foot ou l'humanitaire, tu voyages toujours en première. On sent vraiment que c'est sincère comme plan de carrière. T'es allé à la bonne école, langue de bois et puis des magots. Extasie quand on mentor, si Jaurès ou Victor Hugo. S'il te plaît, arrête de parler de Léopold, Cédar, Césaire. Tes amis à toi envisagent la négritude dans les charters. Bien plus jolie que Roselyne Bachelot. Bien plus sexy que Jean-Louis Borloo. Bien plus souriante que le fâcheux Brissot. Que le Bunda au Sarko, bien moins vulgaire que la Morano. Alors pourquoi leur ressembles-tu comme de gouttes d'eau à tes anciens collègues de bureau? Au Sénégal, quelqu'un m'a dit, Ramatoulaye l'a trahi. Moi j'ai pris ta défense, j'ai dit mais pas du tout, elle a grandi à l'abri avec les bonnes sœurs et dans les arcanes du pouvoir. C'est pas une petite de Pékin, de Tcharoy ou de Grand Dakar. T'as accepté sans grimacer de manger avec tous ces gens qui vantent le colonialisme et la grandeur de l'Occident. Peu m'importe ta mélanine, le pouvoir ça n'a pas de couleur. Derrière ta jolie petite mine se cache un vieux conservateur. Bien plus joli que Roselyne Bachelot. Bien plus sexy que Jean-Louis Borloo. Bien plus souriante que le fâcheux Brissot. Bien plus élégante que le Bunda au Sarko. Bien moins vulgaire que la Morano. Ressembles-tu comme deux gouttes d'eau à tes anciens collègues de bureau? Je m'excuse auprès de toutes les filles qui porteraient le même prénom. Mais Ramatoulaye est entrée, elle aussi, au chenapan Panthéon. Celui du mensonge et du vide, de la toute communication, où les instincts opportunistes ont terrassé les convictions. T'as pas bronché quand le président a vomi l'Afrique à Dakar, et t'es la première africaine à être entrée dans son histoire. Et d'ailleurs il t'en a sorti, faut croire que tu ne leur servais plus. Te voilà toute seule aujourd'hui, je dirais que c'est bien fait pour ton bien plus joli que Roselyne Bachelot, bien plus sexy que Jean-Louis Borloo, bien plus souriante que le fâche Brissot. Élégante que le Bunda au Sarko, bien moins vulgaire que la Morano. Alors pourquoi leur ressembles-tu comme deux gouttes d'eau à tes anciens collègues de bureau?
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, comme tous les mercredis à cette heure-ci ou à peu près. Et ce soir, nous vous proposons une interview de Thomas Deltombe et de Thomas Borel, qui ont dirigé l'ouvrage « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique », paru aux éditions du Seuil. Cette interview a été réalisée par nos camarades du journal Lundi Matin. Et c'est l'heure de le mettre.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Bonsoir Thomas Borel, bonsoir Thomas Delton.
Bonsoir.
Merci d'avoir fait le déplacement. Ça fait plusieurs mois déjà qu'est paru L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Ce livre est une enquête, disons, historico-politique, qui retrace les manœuvres franchement nauséabondes, pour pas dire dégueulasses, de l'État français sur le continent africain. Donc ces manœuvres, qu'elles prennent la forme d'opérations géostratégiques, militaires, ou qu'elles prennent la forme d'arrangements économiques ou développementalistes, vous vous attachez à les présenter comme bien actuelles, à rebours d'une représentation assez largement partagée de la colonisation comme un moment historiquement situé, dépassé, de l'histoire de la France.
Ce qui nous a intéressé avec ce livre, c'est que en fait, quand on parle du concept, quand on évoque le concept de France-Afrique, j'ai l'impression qu'on dit ça autour d'un café ou d'une bière, ah oui, la France-Afrique, etc. Mais dans le fond, c'est comme si tout le monde savait vaguement ce que ça recouvrait, et en même temps, comme si réellement on n'en savait vraiment pas grand-chose. Et donc, vous, au début du livre, vous faites un petit peu la généalogie du concept, mais aussi la généalogie de cette réalité que recouvre la France-Afrique. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous donner, vous, votre définition de ce qu'est la France-Afrique et sa généalogie, alors pas jusqu'à nos jours, mais en tout cas, comment ça se goupille et comment ça s'enclenche, cette histoire de France-Afrique?
La définition, alors c'est vrai qu'on, s'il faut définir en quelques phrases, t'en as lu une partie de ce qu'on a écrit dans l'introduction pour se risquer à cette définition, mais c'est en fait quelque chose auquel on est arrivé à la fin. On n'a pas commencé par définir, nous, par donner une définition de la France-Afrique. On a commencé par vouloir travailler justement sur cette histoire franco-africaine et pour comprendre à quel moment et comment ça se met en place. Puisque il y avait déjà une histoire de la France-Afrique écrite par différents auteurs et notamment François-Xavier Verschave de l'association Survie qui ont tendance à faire démarrer la France-Afrique au moment des indépendances africaines ou deux ans avant au moment du retour de Gaulle au pouvoir au moment du putsch des généraux d'Alger. Et il y a eu ce souhait de regarder plus précisément comment ça se met en place et de creuser cette généalogie et en fait on a vraiment travaillé par étapes comme ça en démarrant marrant en se demandant pas forcément un point de départ mais à quelle époque ça commence à se mettre en place.
Contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent sur ce thème, on a essayé de montrer les racines anciennes de la France-Afrique en fait, pas essayer de donner un point de départ très net comme ça a toujours été fait, donc 58 ou 60, 58 5e République, 60 indépendance africaine globalement, mais d'essayer de comprendre les racines de la France-Afrique. Et c'est étonnamment, en cherchant les racines, on s'est aperçu que le mot France-Afrique lui-même, donc ce néologisme-là, un seul mot, la France et l'Afrique dans un seul mot, il apparaît pour la première fois à la une d'un journal, l'Aurore, le 15 août 1945, au moment juste de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça nous a beaucoup interrogé. On s'est dit, finalement, ce mot existe avant même la naissance qu'on suppose être celle de la France-Afrique. Donc là, déjà, ça nous a obligés à pas mal réfléchir. Et ça nous a conforté aussi dans l'idée que, finalement, déjà, ce concept était intéressant à étudier, sa généalogie, ce qu'il voulait dire. Pourquoi quelqu'un à la une d'un journal, Jean Pio, le gars est complètement oublié aujourd'hui, mais pourquoi quelqu'un utilise déjà ce mot à ce moment précis? Et qu'est-ce qu'il entend par là? Et il entend quelque chose qui est beaucoup plus large que la définition un peu évanescente que tu évoquais tout à l'heure, la France-Afrique, bon, effectivement, le truc dont on parle autour d'une bière et tout, mais personne ne sait très très bien ce que ça veut dire. Lui, il en a une définition très large, quoi. Il dit, il faut finalement resserrer les liens entre la France et l'Afrique. Il faut qu'il y ait cette fusion véritable entre la France et l'Afrique. On va fusionner le mot lui-même, hein. On va faire un nouveau mot qui va montrer cette fusion. Et déjà,
le mot bloc,
voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment cette idée de dire, il faut qu'on prépare, il faut qu'on rende impossible la séparation de la France et de l'Afrique. Et effectivement, ce schéma-là, de la fusionnelle, qu'on retrouve très souvent dans le champ sémantique de la famille ou de l'amour, la famille franco-africaine, l'amour franco-africain, le couple franco-africain, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans toute cette histoire, c'est bien cette idée qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre la France et l'Afrique. Donc nous, on donne finalement une définition à la fois plus solide, à mon avis, que ce qui a été fait jusqu'à présent. En tout cas, on propose une définition plus solide et plus large et plus profonde historiquement. C'est ça qu'on essaie de faire dans ce livre. Et on a mobilisé une vingtaine de chercheurs. Le bouquin fait 1000 pages, on ne l'a pas fait tout seul. On a beaucoup travaillé avec pas mal de gens d'univers différents.
Vous faites remonter la naissance du terme, du concept de France-Afrique à 45, mais ce n'est pas uniquement par rapport à l'apparition du terme dont tu viens de parler dans l'Aurore, c'est que ça correspond aussi à un moment pour la France, à une espèce de nécessité historique nouvelle, enfin en tout cas à une stratégie que vous expliquez notamment dans la première partie du livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le rapport à l'Afrique change, pourquoi c'est en 45 et comment est-ce qu'il change, quoi? Qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce qu'il tente de faire à partir de 45 que vous nommez France-Afrique?
Oui, alors effectivement, il y a une distinction à faire entre le mot et la chose, évidemment. Et on remonte en fait même plus loin, on fait appel au concept d'impérialisme informel, qui est quelque chose qui a été pas mal étudié dans le cas anglais sur les formes d'impérialisme sans souveraineté territoriale. Bon, je reviens pas sur tout ça, mais on essaie en gros quand même de faire une généalogie longue de ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Et effectivement, simplement, le fait que le mot apparaisse le 15 août 45, c'est très révélateur. C'est tout ce que je veux dire, hein. Sur le fait qu'il est révélateur, justement, pour répondre à ta question, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire français a été extrêmement déstabilisé. Puisque De Gaulle a fait appel aux colonies françaises pour essayer de récupérer le territoire métropolitain, récupérer la souveraineté française sur l'ensemble des territoires français, mais il a eu énormément de difficultés à mobiliser les colonies, que la capitale de la France libre, ça a été quand même Brazzaville, puis Alger, donc ça c'est quand même pas du tout anodin, et que par ailleurs les Français, les dirigeants français ont extrêmement peur non seulement de la montée des mouvements nationalistes, des mouvements indépendantistes en Algérie comme ailleurs, en Indochine, etc., mais également ils ont peur de l'empiètement des impérialismes concurrents, notamment américains, mais aussi britanniques, et donc il y a vraiment cette angoisse en fait de comment on va faire pour, maintenant qu'on arrive dans une période de paix, pouvoir conserver nos possessions, quoi. Donc c'est à ce moment-là justement qu'il y a cette idée de il faut resserrer les liens, voire rentrer dans une logique fusionnelle avec ces territoires africains, notamment africains au sens large, hein, c'est Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, parce que par ailleurs en Indochine, à cette date précise, l'Indochine est encore, je crois, sous domination japonaise et qu'il y a vraiment un mouvement nationaliste très très puissant derrière Ho Chi Minh et autres. Donc voilà, c'est cette idée de dire il faut absolument se raccrocher à l'Afrique parce que c'est la base de notre puissance, c'est une des fondations de la puissance française et de l'indépendance de la France. Donc c'est vraiment, l'Afrique est stratégique.
En fait, dès 1944, la question se pose avec ce qu'on a appelé la conférence de Brazzaville, qui était la conférence africaine-française, qui était pour discuter de l'avenir, finalement, des colonies ou des structures impériales françaises, pour citer De Gaulle dans le discours d'ouverture. Et il y a un moment où la France est sous pression de certains de ses alliés aussi, par rapport à ça, sur le fait de faire évoluer, et puis les structures impériales. Et puis il y a la contestation intérieure qui gronde aussi, donc il y a cette conscience aussi, et qu'il va falloir C'est à partir de cette conférence africaine-française qu'il y a les premiers débats sur est-ce qu'il ne faut pas changer le système colonial pour qu'il dure. Tout changer pour que rien ne change. Et finalement, ce ne sera pas décidé à cette occasion-là, ça mettra quelques années à venir, mais c'est effectivement le début de ces débats dans les hautes sphères politiques françaises et dans le milieu colonial, mais qui n'est encore pas prêt à cette évolution-là, qui pense que ça serait le début de la fin. Là où, finalement, les réformistes, mais coloniaux, expliquent que non, c'est au contraire la manière de faire durer l'emprise française.
Réformer, ouais. C'est ça qui est très très intéressant, parce qu'on a tendance à penser que la France-Afrique, c'est un projet, au départ, conservateur. Enfin, c'est évidemment un projet conservateur, pour les théoriciens coloniaux, mais au centre de la question, c'est comment réformer pour conserver. Comment changer la forme pour garder le fond.
Vous dites dans le livre que c'est un projet libéral. Quoi.
C'est ça qui est intéressant. C'est que, par exemple, dans le rapport d'Achille Mbembe, vous savez qu'Achille Mbembe a fait un rapport qu'il a rendu à Macron en octobre dernier. Il dit que la France-Afrique est née finalement des milieux coloniaux conservateurs. Donc les colons, ce qu'on appelle le parti colonial, etc. Alors qu'en face, il y avait ce qu'il appelle des réformistes qui qualifient d'anticolonialistes. Moi, je conteste tout à fait ça. Je pense que c'est précisément les milieux réformistes qui ont amené à ce qu'on a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire une forme de libéralisation du système qui va aboutir aux indépendances, mais à des indépendances en trompe-l'œil. Donc c'est la réforme qui permet la continuité. Et le personnage le plus emblématique de cette période, c'est François Mitterrand, qui est en 1950 ministre de la France d'Outre-mer, et qui se passionne pour la question africaine. Et pendant 10 ans, il va se passionner pour ça, il va même en faire un marchepied pour monter dans la hiérarchie politique, etc. Il écrit 2 livres sur le sujet, quand même, hein, en 53 et en 57, où il se bat en permanence pour dire « il faut changer le système, les gars, parce que sinon on va tout perdre. Tout va exploser et on va tout perdre. Donc il faut changer, il faut lâcher du lest, il faut faire des réformes, il faut donner des choses aux Africains pour qu'ils aient envie de rester avec nous. » Ils aient envie justement de rentrer dans cette logique fusionnelle. Et ils trouvent un allié qui est Félix Houphouët-Boigny, qui à l'époque est député de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale française, et qui il fait une alliance politique avec lui pour justement engager et pour mener ces réformes qui vont aboutir quelques années plus tard à ce système france-africain. Ce qu'on essaie de dire, concernant, c'est que ce système france-africain, il arrive petit à petit dans le sillage du réformisme colonial.
Peut-être une des caractéristiques du livre aussi, c'est de chercher à montrer qu'il y a des continuités et qu'il n'y a pas tant les ruptures, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a quand même des moments un peu clés, on va dire, où les choses évoluent plus. Et là, il y a une date qu'on n'a pas dit, juste avant d'arriver sur les indépendances factices. C'est en fait 1956-57, qui est toujours la période un peu qu'on oublie, parce qu'on parle de 58 ou de 60, et 56-57, qui est important à plusieurs titres. C'est le moment où il y a les indépendances de la Tunisie et du Maroc, mais c'est aussi le moment où il y a la loi cadre de fer pour l'Afrique subsaharienne, et qui va être vraiment le moment de mise sur orbite des élites africaines, et la manière pour Paris en fait de changer son approche. Donc en fait, cette fameuse évolution qui était en discussion depuis la conférence de Brazzaville et dans les différents cercles politiques, à ce moment-là, elle se matérialise. Par cette évolution où on passe d'un système d'assimilationniste, où on cherche à assimiler les indigènes à quelque chose d'association, et où on délègue un certain nombre de choses et on met sur orbite des élites. Et 56, c'est aussi l'année, je vais le dire avant toi, où commence la guerre au Cameroun, où commence une guerre d'indépendance qui est masquée en France encore aujourd'hui, et que les indépendantistes camerounais vont perdre. Et donc, c'est quand même un marqueur important. Et c'est pour ça aussi que nous, c'est un des tournants dans le livre, juste 1957, parce qu'on a l'entrée en vigueur de la loi cadre de fer cette évolution.
Expliquer la loi cadre de fer, qu'est-ce qu'elle vient entériner.
Bah en fait, la loi cadre de fer, c'est à la fois le début de quelque chose, mais c'est une étape dans le processus du réformisme colonial. C'est de dire, en fait, on va octroyer, parce que c'est vraiment toujours des processus qui viennent d'en haut, c'est ce qui est toujours très colonial. On va octroyer une forme d'autonomie au territoire. Je vais très vite parce que c'est une loi qui est assez complexe, mais l'idée générale, c'est d'octroyer une forme d'autonomie aux territoires coloniaux. Pour pouvoir finalement leur déléguer déléguer aux élites africaines un certain nombre de responsabilités et en faire des écrans du processus impérial. C'est, si vous avez des problèmes, chers citoyens africains, débrouillez-vous avec vos représentants. Puis nous, on sera derrière. On va pouvoir tirer les ficelles de, derrière une façade. Donc on est là dans un premier pas, enfin une étape supplémentaire dans un processus néocolonial. On pourrait rentrer dans pas mal de détails sur le cadre de fer, qui est, à mon avis, une énorme esbrouffe, en fait. C'est comme le disait un historien qui s'appelle Frédéric Coupin, il disait c'est un coup de génie politique. Et c'est vraiment un coup de génie politique. Bon, pour ceux qui s'intéressent, il y a un chapitre entier là-dessus qui décortique à quel point c'est une entourloupe super bien ficelée. Sur le concept de néocolonial subversif, je pense qu'il faut bien se rendre compte que les dirigeants politiques à l'époque, ils regardent l'ensemble de l'Empire d'un seul bloc, d'une certaine façon. Or, il y a deux foyers de tension très très forts à l'époque, c'est évidemment l'Indochine jusqu'en 54, et puis l'Algérie à partir de 54. Et leur raisonnement, c'est pour ça qu'on débouche sur 56, c'est pas un hasard si la loi de fer est votée dans ce siège-là, c'est qu'ils comprennent qu'il faut agir avant, et il y a des phrases notamment de Gaston Defer qui dit il faut agir en amont, il faut prévenir, plutôt que toujours frapper, il va falloir plutôt... prévenir les processus, les anticiper, couper l'arbre sous le pied des indépendantistes. D'où l'idée de mettre à la tête de ces territoires des dirigeants qu'on va appeler d'ailleurs nationalistes modérés, ils sont très modérément nationalistes évidemment, pour couper l'arbre sous le pied des véritables indépendantistes. L'idée c'est de ne pas être pris à la gorge comme ça a été le cas en Indochine, débâcle absolue, ou comme c'est en train de se faire à l'époque en Algérie. Donc c'est vraiment d'anticiper ça, avec toujours cette idée qui est très qui s'intègre dans les doctrines de contre-subversion, de dire il y a la main droite qui frappe, mais il y a la main gauche qui caresse. Et l'idée, en fait, c'est d'aller caresser les populations d'Afrique subsaharienne, dire oui, on vous aime beaucoup, il faut qu'on reste ensemble, tout ça, parce que finalement, frapper, ça coûte cher, et c'est pas toujours très rentable. Et bon, moi, Thomas parlait de la guerre du Cameroun, j'avais fait un précédent bouquin avec d'autres chercheurs sur la question de la guerre du Cameroun, et il y a évidemment, c'est une guerre contre-subversive, hein, c'est toutes les doctrines de guerre révolutionnaire, etc., où on a exactement ce type de processus-là, où l'armée française frappe les indépendantistes et fait monter dans les hiérarchies politiques les nationalistes modérés, qui sont en fait les pions de la France, quoi. Donc on est là dans cette logique qui va s'appliquer finalement à une grande partie de l'Afrique subsaharienne. On essaie de faire monter, de faire monter dans les hiérarchies des amis de la France. Et après, on va donc avoir, petit à petit, ces gens vont devenir les dirigeants des États africains quand ils vont devenir indépendants. Ça va devenir les amis de la France, la famille franco-africaine et tout ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Radio Campus.
C'est un problème africain. Parce que vos patrons, nous nous sommes mis d'accord, vos patrons ont dit, bon, on arrange tout, ils l'ont arrangé.
Voilà.
Très bien. Mais vous allez en Afrique.
106,6.
L'essentiel de ce qu'on connaît, on va dire, dans la culture populaire de la France-Afrique, c'est ces éléments scandaleux quelques journalistes ont pu révéler, regardez, la France a fait ceci, le massacre de cela, etc. Et qu'à la fin, ça en arrivait presque à cacher le fonctionnement réel, officiel, ouvert, complètement assumé, qui, dans le fond, n'est pas du tout moins scandaleux, quoi. Et alors, comment est-ce que vous expliquez cette jambe-là, la jambe officielle, claire, limpide et publique, comment est-ce que vous expliquez le fait que elle attire aussi peu de recherche, de travail journalistique et globalement de discussion dans la vie de tous les jours, parce qu'en plus on vit quand même dans une époque où par exemple la présence de tout un tas de personnes qui viennent d'Afrique, etc., est un peu une espèce d'enjeu politique complètement délirant, et pour autant le cœur de ce que la France fait en Afrique depuis au moins 70 ans est jamais évoqué. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Ça permet de revenir au passage sur la question tout à l'heure de la définition aussi, où on n'avait pas tout à fait, on avait donné certains des éléments, et justement sur, quand tu parlais de la définition de la France-Afrique, tu parlais aussi en introduction des manœuvres sordides. Le mot manœuvre, c'est vrai, peut correspondre, parce qu'il peut correspondre à la fois à cette partie occulte, sulfureuse de la France-Afrique, les coups tordus, etc., et à l'autre partie qui est essentiel dans la définition qu'on revendique nous pour la France-Afrique, qui est la partie institutionnelle établie au vu et au su de tout le monde, sans que ça choque. sans que ça choque, effectivement, mais toujours dans le même objectif que celui que tu as rappelé tout à l'heure, de captation, en fait, de ressources économiques, politiques, de pouvoir, culturel, etc. Donc, et avec aussi, dernière caractéristique de la définition, un peu la malléabilité, la capacité à s'adapter. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais donc, sur cette question, pourquoi est-ce que ça ne choque pas ? C'est vrai qu'il y a un récit. Il y a un récit mythifié, à la fois en France, mais aussi dans les pays africains concernés, et pour le coup, qu'on peut trouver aussi, au-delà même des aspects de France-Afrique, qui est autour de la coopération, de l'aide, etc. Toujours très compliqué d'être contre le principe de l'aide, d'être contre la coopération. Ce sont des termes qui stimulent un imaginaire positif, et on a du mal à, on va dire qu'on est fâché avec tout le monde si on critique ça. Mais pour autant, ce qu'on montre pour le coup dans le livre, c'est bien effectivement la manière dont, au moment même où la France manœuvre pour mettre à la tête des nouveaux États des élites qui vont défendre ses intérêts, il y a aussi la construction de ces politiques-là qui est dans une logique clairement de maintenir une emprise. Et il y a par exemple Michel Debré, qui est Premier ministre de Gaulle, qui en 1960 l'explique au Premier ministre du Gabon, Léon Mba, qui voulait pas de l'indépendance, lui, tellement il était francophile, il voulait que le Gabon devienne un département français, et lui dit les deux systèmes vont ensemble, la coopération, et enfin l'indépendance et les accords de coopération. On vous donnera l'indépendance que si vous signez les accords de coopération, qui consistent en fait à prendre en main les questions monétaires, militaires, mais aussi au travers de tous les coopérants civils, les questions de justice, de santé, d'éducation, et finalement avoir complètement une forme de matrice d'emprise. Et ça, il le redit, Michel Debré, dans ses mémoires, il dit, une citation dans ses mémoires, il dit qu'en fait, parallèlement à toute la politique mise en place, je tente au cours de cette année 1960 d'établir une véritable toile d'araignée. Et il utilise ce terme de toile d'araignée pour expliquer ces différents accords de coopération. Et ça fait partie intégrante, pour le coup, de cette emprise française et de cette histoire france-africaine. Et effectivement, non seulement ça ne provoque pas de scandale, ça ne provoque pas d'indignation, ni en France, ni assez rarement, à part maintenant, sur des aspects spécifiques comme la monnaie ou au niveau militaire, mais en Afrique. Et sur la question des recherches, il y a des travaux de recherche quand même. On peut pas, tu disais est-ce que les chercheurs et chercheuses travaillent là-dessus ? Oui, mais toujours de manière très segmentée en fait. Trop rarement, en replaçant ça dans une image d'ensemble et dans une analyse de relations de pouvoir que ça produit, quoi. Donc il peut y avoir des travaux de recherche super documentés sur un point particulier, mais sans le resituer dans cette analyse politique qu'on tente de faire.
Ouais. Non, ce qui est intéressant dans la question, c'est la notion de scandale, quoi. Qu'est-ce qui fait scandale ? Effectivement, l'aide de la France aux génocidaires Hutus au Rwanda, c'est un scandale évident. Il y a toute une série de scandales, des coups d'État, des assassinats.
Un scandale relatif, parce que je pense qu'on nous prend des... Enfin, que Rwanda soit... Non, ce qu'on veut, c'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'opinion publique, ça ne produit pas un scandale. Déjà, si on va dans la rue, là, expliquez-nous un petit peu la situation au Rwanda.
Si on explique aux gens, ça les choque.
Oui, bien sûr. Quand on sait... je sais pas, pour rester sur l'exemple du Cameroun, Félix Roland Moumier qui est empoisonné par la DGSE à l'époque, le SDEC, c'est quand même un peu scandaleux d'assassiner des gars. Il y en a plein des scandales comme ça, des types qui se font liquider directement, indirectement. Cette histoire
est truffée. Est-ce que tu peux expliquer celui-là ? Parce que là, ce qui est compliqué, c'est que. En fait, évidemment, c'est plein de petits fils. En fait, votre bouquin,
Juste pour répondre, juste cette question, la notion de scandale, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'on désingue un mec. C'est un scandale, qu'on aide des génocidaires, c'est un scandale évident quand même. Quand on le sait, c'est forcément. Mais par contre, le franc CFA, c'est perçu pas du tout comme un scandale. L'aide au développement, même si elle est complètement détournée, qu'elle sert en fait les multinationales, c'est pas perçu comme un scandale. La présence, en ce moment, il y a quand même 10 000, tu me corriges si je me trompe, 10 000 soldats français présents sur le territoire, sur le continent africain, ça paraît pas du tout problématique et encore moins scandaleux, parce que aussi, je pense que ça s'intègre dans une psyché. impériale. C'est-à-dire, bah, on est quand même là pour aider ces pauvres gens. Il y a une sorte de paternalisme qui, évidemment, la forme, le visage, le racisme à visage humain, quand même. Donc, je pense, ce qu'on essaie de dire, hein, quand même, et qui est un peu nouveau par rapport à ce qui a été dit, c'est que tout ça s'enracine dans des mécanismes mentaux racistes. Hein. Ça, c'est très, très clair. Pour venir sur Moumier, bon, Félix Roland Moumier, c'était le président du mouvement nationaliste camerounais. Le mouvement nationaliste camerounais se battait les armes à la main contre l'armée française et ses supplétifs africains, camerounais et autres, hein, puisqu'il y avait des troupes qui venaient de Côte d'Ivoire, de Centrafrique, etc., pour mater les indépendantistes camerounais. Et Félix Roland Moumier essayait de chercher du soutien diplomatique, financier. On est en 1960, et voilà, la DGSE envoie un type qui se présente comme journaliste, qui met du thallium dans son verre. En Suisse. Et Moumier meurt. Mais comme, bon, après il y a des anecdotes tragiquement comiques, quoi. Comme Moumier n'a pas bu son verre, le gars de la DGSE met une deuxième dose de thallium. Donc finalement, le thallium, c'est un poison qui agit lentement. Donc comme ça, on ne peut pas tracer que finalement, c'est plus exactement à quel verre il a bu. On ne peut pas savoir exactement qui est l'assassin, quoi. Mais comme il a eu deux doses et que Félix Roland Moumier est médecin, tout de suite, il comprend ce qui s'est passé. Il alerte. Et puis la DGSE exfiltre en fait son type de Suisse, qui est mort tranquillement. Hein. Donc voilà, il y a plein d'histoires. Bon, oui, encore une fois... Ce qui est compliqué, c'est d'essayer de tenir les deux bouts. C'est ça qu'on essaie de faire dans le livre. C'est pour ça aussi qu'il est gros. C'est qu'on essaie de tenir les deux bouts du scandale. Les scandales cachés, toutes ces histoires absolument hallucinantes sur lesquelles la lumière n'a jamais été faite. Quand je parle de la guerre du Cameroun, par exemple, c'est des dizaines de milliers de morts. C'est des dizaines de milliers de morts dans un territoire qui fait 4 millions d'habitants, quoi. C'est énorme, en fait, proportionnellement. Mais tout le monde s'en fout, visiblement, hein, parce que... Là, on a un président qui nous dit qu'il veut regarder la mémoire en face, le passé, réconcilier les mémoires, mais visiblement, ça n'intéresse pas beaucoup, la guerre du Cameroun. Hein. Bon. Et donc, tenir à la fois, raconter toutes ces histoires scandaleuses pour quand même les faire connaître, et deuxièmement, expliquer que ces scandales évidents, ils s'accrochent à des scandales des choses qui devraient nous paraître scandaleuses, mais qui sont totalement normalisées dans notre psyché raciste collective. Et ça, c'est un autre scandale, en fait.
Y compris des choses très récentes. On peut peut-être donner un autre exemple. Il y a un chapitre que signe la journaliste Fanny Pigeot sur les îles éparses. C'est un archipel d'îles situées autour de Madagascar et où Emmanuel Macron s'est rendu il y a 2-3 ans sur place. Et en fait, cet archipel est disputé entre Madagascar, qui normalement devrait avoir la souveraineté sur cet archipel au niveau du droit international, mais la France cherche à les lui arracher. Et Emmanuel Macron s'est rendu sur place, et vraiment le colon qui plante son drapeau, quoi, qui est arrivé, qui a dit « Ici, c'est la France, c'est notre fierté, on va faire une réserve nationale, donc naturelle, une réserve naturelle, etc. » Mais qui a torpillé les discussions entre Madagascar et la France, et en fait la résolution de ce différend international. Mais ça ne choque personne. Alors parce que ça paraît lointain, parce que aussi on est dans la discussion de l'ordre du droit international, et on se dit bah si c'est du droit, il n'y a pas de scandale. Enfin, c'est ça. Bah non, en fait là, il y a une annexion pure et simple d'un territoire autour de Madagascar, et avec des enjeux de contrôle de superficie maritime, avec des enjeux de contrôle de ressources en hydrocarbures potentielles dans cette zone, etc. Donc évidemment, il y a des choses comme ça derrière, mais ça ne choque pas. On est dans l'institutionnel de quelque chose de très présent, mais qui passe tranquillement. Donc on essaye aussi, nous, voilà, d'essayer de remettre ça un peu en lumière à l'occasion de certains chapitres, ou aussi des fois simplement des encadrés, des petits textes courts qui vont permettre un peu de mettre la lumière sur un cas, mais qu'on essaie toujours de replacer dans cette image d'ensemble et dans cette perspective longue franco-africaine.
Si je peux ajouter juste un truc là-dessus, là on est en train de dire ça choque personne en France. Parce que un des apports qu'on essaie de faire, des choses qu'on essaie de faire dans le livre, c'est d'expliquer que beaucoup d'Africains, eux, sont parfaitement au courant de cette histoire. En tout cas, ils en sont les victimes, pour beaucoup, et souvent ils connaissent assez bien l'histoire. Moi, je reviens sur le Cameroun, parce que c'est le pays sur lequel j'ai le plus travaillé. Les Camerounais sont tout à fait, enfin, très au courant. Ils ne connaissent pas forcément tous les détails, ils n'ont pas forcément accès aux archives, ils n'ont pas de visa pour venir dans les archives, etc., mais ils savent d'où vient leur gouvernement. Ils savent, ils voient les camions
qui vont au port de Douala, ils savent qui contrôle le port de Douala, ils savent tout ça. Donc il y a une asymétrie d'information aussi qui fait qu'il y a une forme d'incompréhension en France quand on parle de sentiments anti-français. Les Français, ah bah, c'est quand même terrible, on les aide à se battre contre les djihadistes, on leur donne de l'argent, etc. Ils sont quand même pas très... voilà quoi, pour avoir un peu plus de gratitude pour tous les efforts qu'on fait pour eux, etc. L'opération Barkhane, c'est quand même 1 milliard d'euros par an, etc. Mais ce raisonnement-là, il ne prend pas en compte le fait qu'on est en fait ignorant. C'est un raisonnement d'ignorant. Les Africains, les Camerounais par exemple, ils savent très bien, ils connaissent cette histoire, ils savent quoi. Ils comprennent pas qu'on ne la connaisse pas. Comment, vous ne savez pas que Félix Roland Oumié a été assassiné par votre... Et ça va très loin. Justement, sur cette histoire d'assassinat de responsables politiques, François Fillon, quand il était Premier ministre, il va au Cameroun, il fait une conférence de presse, et puis il y a une journaliste qui lève la main dans la conférence de presse, qui dit « Est-ce que vous pourriez nous expliquer la responsabilité de la France dans l'assassinat des différents, parce qu'il n'y a pas eu que Moumi, hein, des différents responsables nationalistes camerounais ?» Réponse, c'est de la pure invention. Le déni total, face caméra, qui rentre chez lui content. Les Camerounais, ils sont ébahis. Ah ouais, on a le Premier ministre de la France qui vient nous dire que ces faits historiques documentés, c'est de l'invention. C'est un déni hallucinant, en fait.
J'ai écrit un chapitre sur ce concept d'or Afrique, un concept qui est pas mal travaillé, qui est travaillé par un certain nombre de chercheurs au niveau international aujourd'hui. Bon, qui, effectivement, c'était un mot qui était très 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 à la mode dans les années 50, avec cette... Effectivement, c'est la jointure entre plusieurs phénomènes, il y a ces fantasmes un peu démiurgiques de... On va pouvoir... L'Afrique comme terre d'avenir, on va pouvoir bouleverser, on va pouvoir développer toute une série d'infrastructures futuristes, il y a un imaginaire futuriste, on va recomposer complètement la relation Europe-Afrique, etc., donc... Bon, voilà, il y a le fait qu'on est dans un mouvement de décolonisation et en même temps de construction européenne, donc ça pose une question de, finalement, les territoires coloniaux, ils appartiennent à l'Europe ou pas ? Compliqué. Donc, bon, ok, on va faire leur Afrique, comme ça au moins, tout le monde est dedans, et en plus, l'avantage, c'est que la France va être le pivot des deux constructions, être le pivot de l'Empire français, ce qu'on appelle l'Union française, et le pivot de... Et il y a tout un jeu assez incroyable dans les négociations, ça a été très bien développé par deux chercheurs suédois qui s'appellent... Il y a un bouquin qui va sortir sur ce sujet-là, où il raconte comment la France utilise les colonies pour négocier au mieux avec ses partenaires européens. On va mettre ça dans le panier, donc on aimerait bien avoir des avantages en compensation, quoi. On vous offre nos colonies, donc en échange, on aimerait bien que vous financiez un peu les travaux d'infrastructures gigantesques qu'on envisage là-bas. Enfin, bon, on rentre dans toute une série de considérations pour montrer aussi dans quel type de période on est, dans quel type de mentalité on est. Effectivement, cette toute puissance, quoi, cette idée de toute puissance, ce à quoi tu fais référence, en fait, c'est un article de l'Express qui parle d'un livre sur leur Afrique, ou d'un Autrichien, oui, qui dit... voilà, on va faire une mer au milieu de l'Afrique, mais ça, c'est des projets très anciens. Il y avait l'idée d'assécher, par exemple, la Méditerranée.
Exact.
Ça, c'est des projets encore plus anciens, de l'entre-deux-guerres. On dit, on va assécher, puis on pourra passer, comme ça. Ça fera vraiment leur Afrique, au sens... Il y a vraiment cette idée que le blanc, l'homme blanc, il peut tout faire, en fait, chez les autres, quoi. Il est chez lui, partout. C'est lui qui décide.
Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui remobilisent l'idée de l'Eurafrique, qui disent il faut qu'on reconstruise une relation euro-africaine, qui prennent l'Eurafrique, mais qui disent attention, pas l'Eurafrique des années 50, évidemment, qui prennent cette précaution, mais qui en fait mobilisent quand même un terme qui est profondément marqué par cette époque coloniale, quoi, qui vient de cette époque coloniale. Donc ils mobilisent quand même derrière un imaginaire. Et puis sur un autre aspect que tu évoquais, qui permet de revenir un peu sur l'idée de scandale ou pas scandale, parler de 2011, c'est vrai que c'est un moment, il y a un moment un peu charnière, c'est déjà le moment où la France entre dans la guerre contre le terrorisme. Il y a vraiment, c'est 2010, 2011, là où le terme commence à être utilisé par des responsables politiques français. Et donc en janvier 2011, il y a à la fois une opération militaire pour aller bloquer des ravisseurs de deux jeunes Français qui ont été enlevés au Niger et qui en fait ouvrent le feu sur le convoi, et il y a un des deux otages français qui est vraisemblablement mort par une balle française, même si encore aujourd'hui sa famille se heurte au secret défense sur le sujet. Et puis il y a l'insurrection effectivement en Tunisie et puis aussi en Égypte. Et il y a quelque chose qui se passe qui est assez exceptionnel à l'Assemblée nationale, où il y a un député communiste qui interpelle la ministre des Affaires étrangères Michel Alliot-Marie en disant bah voilà, en Tunisie il y a ça, il y a un mouvement de révolte populaire, il y a de la répression, qu'est-ce que la France compte faire ?
Renforcer la coopération.
Et la ministre répond le plus naturellement possible, parce qu'elle est à mille lieues d'imaginer que ça va choquer. Bon, justement, on est tout à fait dans cette idée du scandale, pas scandale. Elle dit qu'il y a un savoir-faire français, le terme est resté, ça a beaucoup, à l'époque, marqué les débats publics, mais dit qu'il y a un savoir-faire français qu'on peut apporter, etc. Il s'agit, en gros, d'apporter du matériel et de la formation pour apprendre pour permettre de réprimer en faisant le moins de morts possible. Exactement. Ce qui permet de faire le moins de tâches possible et donc d'éviter qu'un régime allié soit mis au ban de la communauté internationale. Et en fait, là, la ministre dit en fait ce que fait la France depuis toujours. Et d'ailleurs, ce qu'elle fait toujours là en 2022, dans d'autres pays. Donc, il y a cet emballement à ce moment-là avec des députés socialistes qui s'insurgent alors qu'eux-mêmes au pouvoir, le PS au pouvoir a toujours fait la même chose aussi, etc., qui disent « Ah mais c'est pas possible, on va aider une dictature à réprimer sa population ». Et donc là, effectivement, il s'est passé un truc étonnant qu'on peut pas tout à fait... Enfin moi, j'ai toujours pas l'explication aujourd'hui. Pourquoi cette fois-là ça a choqué? Et pourquoi, quand on fait la même chose en ce moment même au Tchad, au Togo, au Gabon, au Congo, ça ne choque pas. Ça continue de passer comme une lettre à la poste, le fait qu'on continue, on fait de la formation à des choses qu'on appelle la gestion démocratique des foules, pour apprendre à tabasser, mais en faisant plus proprement possible, de manière à éviter la condamnation internationale derrière, si jamais on mitraille la foule. Mais enfin, 3 ans plus tôt, au Cameroun, il y a eu une insurrection populaire au moment de ce qu'on a appelé dans le monde les émeutes de la faim, en février 2008. Mais au Cameroun, c'est parti d'une augmentation du coût du carburant, mais tout de suite, ça a pris un tour politique avec le slogan « Biya doit partir », Paul Biya, dictateur en place depuis 1982, donc comme Mitterrand, quoi, si on veut... Il est toujours là aujourd'hui. À l'époque, il était en train de changer la constitution pour rester au pouvoir. Et ça part en révolte populaire dans les grandes villes. Biya doit partir, Biya must go, parce qu'il y a aussi une population anglophone au Cameroun. Et l'armée ouvre le feu. Et là, la France fournit aussi du matériel, fournit un appui. Alors, je ne dis pas qu'elle a fourni les armes qui ont tiré sur les manifestants, mais c'est une armée avec laquelle on a la coopération. Et ça ne choque pas. Alors que dans le même temps, la Chine fait ça au Tibet et ça choque. Donc voilà, il y a des choses qui choquent, des choses qui ne choquent pas, et on n'a pas toujours l'explication. Et nous, on essaye, dans ce livre, de remettre ça et de manière la plus méthodique possible pour rappeler que c'est l'ensemble qui doit choquer l'OGM.
Relation ne doit plus exister. L'Afrique va se réveiller. Les Africains vont se révolter.
l'Afrique va se réveiller. Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, 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 why, 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 les Africains vont se révolter. Oui, why, ce jour-là, ça va chauffer. Fric, 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 c'est ça la France-Afrique. C'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. Fric, 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 c'est la France-Afrique. Tout ce qu'ils ont pillé et tout ce qu'ils ont caché. Oui, why, l'Afrique va se réveiller. Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, why, l'Afrique va se réveiller. Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, 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 oui. Ce sera un affognage. Oui, 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 oui. Une colère inaffognable. Oui, 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 oui. Ce sera inaffognable. Oui, oui. Une colère inaffognable. Oui, 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 oui. Ce sera inaffognable.
Radio Campus.
Mais c'est l'Afrique qui est en question, bon Dieu, alors !
106,6.
L'armée française, le débat sur l'armée française au Sahel, en France, n'a commencé l'année dernière que parce qu'il y a un peu plus de soldats français qui ont été tués. Et non pas parce que. Pas lié, par exemple, au bombardement d'un mariage au Mali par l'armée française qui a tué plusieurs dizaines de civils et où l'armée française continue de démentir alors qu'il y a eu une enquête de l'ONU qui conclut que c'est bien la France qui a fait ça. Et c'est ça qui devrait provoquer le scandale chez nous. Et au lieu de ça, le débat politique ne prend que sur des choses complètement périphériques, pas pour la famille des soldats français qui ont été tués, mais en attendant, y a des choses qui ne prennent absolument pas, qui ne donnent absolument pas prise à l'étonnement ou à l'indignation.
Un truc, je pense que là, il y a deux mots que tu as prononcés qui sont très importants, c'est déshumanisation, et ça c'est vraiment un schéma colonial. C'est-à-dire l'idée de dire que les colonisés, c'est pas vraiment des humains. En tout cas, c'est des sous-humains. Il y a même une hiérarchisation raciale. Les Blancs, les Africains du Nord et les Africains d'Afrique subsaharienne. Et qui sont vraiment... Il y a cette phrase, on parlait tout à l'heure du génocide des Tutsis au Rwanda, cette phrase prêtée à Mitterrand qui dit... Dans ces pays-là, de toute façon, un génocide, c'est pas très important.
Il le dit à un journaliste qui l'a rapporté.
Il rapporte ça. Bon. Même si c'est vrai ou pas, en tout cas, cette phrase-là, moi, je la trouve très intéressante parce que c'est hyper choquant. Évidemment, c'est hyper choquant. Mais je pense qu'en réalité, beaucoup de gens pensent ça au fond d'eux-mêmes. Dans ces pays, un génocide, c'est pas très important. Dans ces pays, plein de
ça arrive. Quoi.
C'est pas très important. Au Cameroun, on revient sur le Cameroun, sur la répression des anglophones qu'il y a depuis 5 ans en ce moment. Il y a eu 6 000 morts, 700 000 exilés selon l'ONU. 700 000, hein. C'est énorme.
Déplacés internes,
donc. Pas très important. On s'en fout. Pourtant, on est en coopération avec ce pays-là, avec les dirigeants de ce pays-là. Et on fait ami-ami avec eux depuis des décennies. C'est pas très important, quoi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose... Et puis, justement, c'est lié à l'autre mot que tu utilisais, qui est loin des yeux. Ouais, loin des yeux, loin du cœur, quoi. Et c'est vrai que moi, je suis toujours un peu frappé, par exemple, dans les milieux de gauche. Il y a un intérêt pour les migrants, tout à fait légitime, pour le sort des migrants, qui meurent en Méditerranée, qui sont dans des situations terribles ici et tout. Mais on a l'impression qu'avant la Méditerranée, par contre... Mais il faudrait s'intéresser aussi aux gens qui meurent. Il y a plein de gens qui meurent en Méditerranée. C'est un scandale, pour en revenir. Mais ce qui se passe au-delà de la Méditerranée, c'est aussi un scandale. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à se mobiliser sur l'ensemble de ces scandales. Et pas juste quand c'est au coin de notre rue aussi. Il faut aller un peu plus loin de ce
que ce qu'on voit, à mon avis. Mais bon.
Oui, mais enfin, moi, j'ai l'impression qu'en fait, le vrai fond du scandale, c'est l'ignorance générale et généralisée quant à l'Afrique. Enfin, moi, tout à l'heure, on parlait du bouquin et Clara me dit ah, ce qui est vraiment bien dans leur livre, c'est qu'il y a plein de cartes. Et dans ma tête, je me suis dit
Non, mais vraiment, j'aime beaucoup les cartes. J'en ai imprimé une.
Et moi, dans ma tête, je me suis dit ah, mais oui, heureusement qu'il y a des cartes, parce qu'en fait, moi qui ai eu une éducation scolaire normale, je pense que si on mettait des noms de pays africains, qu'il fallait que je les repose tous au bon endroit, je suis sûr que j'ai pas 20 sur 20, quoi. Et ça, c'est pas que je suis particulièrement idiot, mais globalement, je pense qu'on prend n'importe quoi, enfin, on prend 50 personnes dans la rue là, on leur demande de nommer 5 chefs d'État africains, ils auront beaucoup de. Et donc, c'est là que le passif colonial, je trouve, est extrêmement puissant. C'est-à-dire que moi, je pense par contre, n'importe qui en Afrique sait où est Paris, sait où est la France, etc. Et donc, l'espèce de situation d'asymétrie et de soumission, elle commence déjà par se loger, ne serait-ce que dans ce qu'on connaît.
Juste pour l'anecdote, pour le diplôme, il y a des années, j'avais fait un article sur Bolloré. Je vais voir les gars de Bolloré. À l'époque, c'était un monsieur qui s'appelait Dominique Lafont, qui était le patron de Bolloré Africa Logistics. Il avait une grande carte d'Afrique derrière moi pendant que j'étais arrivé. Il y a une grande carte d'Afrique. Et à un moment, il me dit exactement ce que tu dis. Bah, de toute façon, en France, qui connaît monsieur, est-ce que vous savez où est le Togo, par exemple? Comme si c'était évident que je connaissais pas, quoi. Oui. Et pour lui, c'était bien. Et il me dit, si vous voulez, la prochaine fois, je vous emmène dans mon jet. Parce que lui, en fait, il a une conception de l'Afrique en surplomb. Il va en jet d'un endroit à l'autre et puis il s'en fout un peu, en fait. Ça va...
Après, moi, personnellement, ça me choque pas forcément que les gens ici ne connaissent pas, ne sachent pas situer une capitale ou un pays, et connaissent pas les dirigeants africains. C'est ce qui est plus... Il y a deux choses qui me choquent un peu plus, c'est de ne pas savoir qu'il y a des bases militaires permanentes en Afrique, françaises, je veux dire, des bases françaises, enfin, que c'est cette connaissance de ce qui est fait en notre nom, qu'on se reconnaisse ou non dans l'État et dans ses structures actuelles, c'est quand même quelque chose qui est fait en notre nom, on ne peut pas tout à fait s'en laver les mains. Et puis, un autre truc qui est, par contre, comme tu parlais des milieux de gauche, quoi, c'est tout à l'heure, mais c'est le fait de se... d'être capable de situer parfaitement certains faits historiques ou certains éléments de l'impérialisme des États-Unis et la question de l'impérialisme français qui échappe au radar d'une bonne partie des gens qui critiquent l'impérialisme états-unien, quoi. Et donc ça, c'est quand même quelque chose pour moi qui, là, il y a une forme d'indignation sélective qui est difficilement acceptable. Ouais. On est vraiment dans ce que le proverbe dit de la paille et la poutre, quoi. Voilà.
Il y a un livre qui était paru à la découverte de François Fourquet, qui est une espèce d'économiste absolument formidable, que personne n'a lu, mais a vraiment à tort, et qui avait écrit un livre sur les richesses et puissances, qui était absolument formidable. J'ai lu il y a très longtemps, j'en ai un souvenir assez vague, mais ce qui est très très intéressant dans son bouquin, c'est que il dit qu'il n'y a pas le capitalisme comme ça. Il y a différentes formes de la puissance, et notamment il fait des comparaisons, et il explique par exemple, comment est-ce que, par exemple, l'Angleterre et la Hollande, ils sont immédiatement centrés, en termes de puissance et donc de richesse, sur les flux. Ils ont construit des bateaux, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va capter les mers, etc. Alors que la France, s'est dit, l'idée de la richesse de la France, c'est comment est-ce qu'on a les greniers les plus remplis possibles, et c'est ça la richesse et la puissance. Et là, en fait, un peu l'action que je me pose, c'est est-ce que... Parce qu'en fait, il y a plein d'interprétations de pourquoi la France maintient la France-Afrique.
Oui, non, il n'y a pas une motivation qui prime sur une autre. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Il y a effectivement l'aspect des ressources, mais qui peuvent être... Enfin, ça peut être dans des intérêts strictement économiques ou dans des intérêts stratégiques. L'uranium, 100% de l'uranium militaire, je ne sais pas si c'est encore exactement le cas aujourd'hui, mais venait du Niger, ou vient toujours du Niger, donc ou venait du Niger jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc la dimension, enfin, et là on nous annonce des constructions d'EPR, de réacteurs nucléaires pour l'indépendance énergétique de la France avec de l'uranium qui est importé. Alors certes, pas que d'Afrique, mais évidemment, il y a cette dimension qui peut être strictement économique, genre Bolloré fait du pognon en Afrique, qui peut être d'ordre plus stratégique, énergétique par excellence, quoi, ou certains minerais stratégiques. Il y a et cette dimension de rayonnement, de puissance. Il y a l'espace maritime, qui est 200 fois celui qu'on aurait avec la seule métropole. Donc ça n'est pas rien. C'est ça aussi qui explique les îles éparses dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est aussi le contrôle du canal des routes maritimes dans le canal du Mozambique. Pareil quand on ce qui peut se passer en Kanaky, Nouvelle-Calédonie actuellement, etc. Il y a cette dimension là, et puis il y a la dimension pour les États qui le fait d'avoir tous ces États alliés, de ce que François-Xavier Verschave a appelé assez justement, je pense, un cortège d'États clients. C'est ça aussi qui donne du poids à la France. Dans les instances internationales, la France, si elle a du poids, alors certes, elle a son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est les suites de la Seconde Guerre mondiale et un peu le truc sur lequel elle est assise, pour le coup. Mais il y a aussi le fait que dans les négociations, dans les discussions internationales, il y a des États derrière qui vont voter avec la France, qui vont appuyer les positions françaises, qu'en fait c'est ça qui permet à la France de peser à l'international. Donc il y a aussi cette motivation qui est importante. Il y a ce mix, on va dire, de motivation, et qui va aussi dépendre des acteurs qui vont jouer à ça. Tous n'ont pas les mêmes intérêts. Il y a une convergence d'intérêts entre le dirigeant politique qui est omnibilé par cette dimension de puissance, y compris quand c'est habillé d'idées prétendument progressistes, comme quoi on va apporter la démocratie dans le reste du monde, ou la France des Lumières, on rayonne, etc. Enfin, on entend ça à gauche aussi, hein, beaucoup, là. Donc il y a quand même cette idée à les démonter, et ça qui peut se mêler à des intérêts d'autres capitaines d'industrie qui, eux, voient directement les bénéfices à engranger, quoi.
Ouais, moi je suis d'accord, il y a tout un enchevêtrement d'intérêts, puis il y a l'intérêt, je pense qu'il y a quand même un intérêt symbolique, l'honneur de la France. T'imagines aujourd'hui si on disait, bon, finalement, là on s'en fout de la Guadeloupe, il y aurait un mouvement de révolte chez tous les Français qui ont au fond d'eux-mêmes quelque chose d'assez impérial. Comment on nous retirerait ce joyau? Et je pense que c'est très fort aussi, ce truc, on ne peut pas abandonner ce qui nous appartient. Mais voilà, ça joue très très fort.
Et là, vraiment le résultat d'une culture impériale qui est enracinée dans la plupart d'entre nous, quoi.
Sur une question un peu plus sur l'actualité, donc ce que vous dites dans le début du livre et qui est un peu marrant, c'est que vous dites depuis les années 80, enfin en gros, reste dans l'histoire récente, le seul usage qu'on fait, qui est fait du terme de France-Afrique, consiste à dire que la France-Afrique s'est terminée. Donc on reconnaît la France-Afrique à condition de se dire que c'était un peu une autre époque et que maintenant on n'y est plus. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en gros, là, dans notre présent, maintenant, qu'est-ce qui, selon vous, continue de relever de la France-Afrique? Quelles sont les stratégies actuelles, en l'occurrence de Macron, autour de la France-Afrique? Parce qu'il y a ce truc un peu amusant. On a un ami qui avait fait une recension du livre pour lundi matin et qui disait, oui, on est quand même dans une situation où dans toute la campagne électorale, etc., il n'est jamais question de la France-Afrique. Il est question des migrants, il est question de la sécurité, etc., etc. Mais absolument personne dans les gens qui se prétendent nous gouverner demain qui évoque ça, quoi. C'est une espèce de d'angle mort ou de trou noir ou de truc de poussière sous le tapis. Mais donc, qu'est-ce qui fait que vous pensez que la France-Afrique a toujours cours, et quelles sont les stratégies de la France-Afrique aujourd'hui, et comment ça se goupille sous le quinquennat Macron, comment ça s'est goupillé sous le quinquennat Macron.
C'est vrai que le mot France-Afrique, dont on a parlé tout à l'heure, la généalogie, mais il revient dans le débat public à la fin des années 90, porté par l'association Survie, et notamment par François-Xavier Verschave, et au début des années 2000, il y a un peu ce truc, les militants et militantes se voient répondre, non, tout ça c'est de l'invention de militants, ça n'existe pas. Et à partir du milieu des années 2000, en fait, le terme un peu s'installe et c'est de dire oui, non, mais ça appartient au passé. C'est l'époque de Jacques Faucard, des bras droits de Gaulle, qui avait la haute main sur les affaires africaines, etc. Ça n'existe plus. On s'amuse dans le livre à rappeler un peu les promesses. Enfin voilà, Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il mettrait fin à la France-Afrique. Ensuite, François Hollande avait annoncé qu'il mettrait fin à la France-Afrique.
Lui, il a dit la France-Afrique, c'est terminé.
Alors,
il
non, mais à chaque fois,
c'était fini, quoi.
Non, mais dans son programme, il y avait quand même mettre fin. Ouais, dans le programme de François Hollande, il y avait
donc
un point qui était.
Non,
il développait pas. Par contre, il ne définit pas. Hein, c'est trop compliqué. C'était mettre fin au système de la France-Afrique. Hein, je crois le terme précis, je pourrais le retrouver là. Mais Emmanuel Macron aussi dit ça en 2017, au meeting de campagne le 1er avril 2017. Pourtant, c'était pas un poisson d'avril, mais il dit aussi, nous allons, je sais plus,
sortir
de la France-Afrique. Voilà.
Et du coup, c'est la France en moins.
Et donc les trois dont je viens de parler, après avoir fait ces promesses successives, les trois ont aussi dit qu'ils avaient tenu cette promesse-là, mais puis d'autres d'ailleurs au passage. Et donc ils disent qu'ils sont sortis de la France-Afrique. Et nous, ce qu'on essaye effectivement de montrer, plutôt sur la fin de l'ouvrage, sur la partie un peu récente là qui concerne les dernières années, c'est bien de montrer que il y a beaucoup de gesticulation, mais que ce qui est à la base de ce qui fait système dans la France-Afrique continue. C'est le cas au plan militaire. Même si l'armée française vient de quitter le Mali, suite à de la contestation sur place et puis à la concurrence, mais qui passe en rappeler aussi les jeux géopolitiques des années 50, à la concurrence des Russes avec un groupe de mercenaires, qui est une armée de l'ombre là du Kremlin, hein, qui vient sur place. Même si l'armée française quittait l'Afrique, elle reste très présente et elle se redéploie autour, au Sahel et dans d'autres pays. On a toujours des bases militaires prépositionnées, on a toujours la coopération militaire dont je parlais avec des officiers français qui sont au sein des régimes répressifs, etc. Donc tout ça continue aujourd'hui, en ce moment même. Là, on est vraiment dans quelque chose qui provient très clairement de la mise en place de cette France-Afrique. Au plan monétaire, où on a eu une annonce d'une réforme par Emmanuel Macron, qui est allé en Côte d'Ivoire, annoncé lui-même, président français, qui vient annoncer à des millions de ressortissants ouest-africains que le nom de leur monnaie pourrait changer, puis que des choses dans le fonctionnement de leur monnaie, qui est une fonction régalienne, pourrait changer. Donc déjà, symboliquement, c'est très colonial, la réforme elle-même, en fait, ne vient qu'à changer, enfin, comme on disait tout à l'heure, lâcher du lest pour préserver le système. Et on cite un rapport sénatorial, une sénatrice, Nathalie Goulet, et son collègue sénateur Victorin Lurel, qui disent c'était pour mettre fin aux aspects les plus irritants du système. On a enlevé deux aspects du fonctionnement du franc CFA, mais on a conservé le fonctionnement général, en remplaçant ça par d'autres obligations d'information, etc. Donc au plan militaire, monétaire, en dépit de cette réforme et de la grosse com qu'il y a eu là-dessus, rien n'a changé. Des annonces aussi sur le sommet Afrique-France qu'on a eu à Montpellier récemment. On nous dit on n'invite pas les chefs d'État africains, comme si toutes et tous étaient des despotes, ce qui est déjà un problème en soi. Là, ça commence à contester. Alors, Achille Mbembe, l'historien philosophe dont Thomas a parlé tout à l'heure, qui était un peu l'artisan de ce truc-là, s'est empressé de dire à la radio non, mais le président Macron a les présidents africains au téléphone tous les jours. Donc c'est-à-dire que lui-même, qui avait été un peu l'artisan de cette opération de com, la torpille en essayant de se défendre d'une forme de maladresse, tout ça pour faire venir des jeunes autour du président de la République, un peu qui fait son show, et dans quelque chose de très colonial aussi, où on désigne qui sont les élites de demain. Les pépites qui ont été désignées comme ça par l'Elysée, quoi. Ce sont les pépites africaines.
Ils ont dit les pépites
pour les 12, 10 ou 12
jeunes. C'est vraiment le truc que tu vas extraire et qui va te faire briller, quoi. C'est extraordinaire.
C'est les pépites, et puis en plus qui viennent et qui. Alors on dit, il n'y aura pas de tabou, ils vont parler, ils vont chahuter le président de la République. Mais après, lui, il avait tout le loisir de répondre. Et puis surtout, ce que l'Elysée avait expliqué dans un point presse une semaine avant, c'est que ces jeunes-là, la dizaine qui interpellait le président, ils venaient pour un séminaire de travail à partir du lundi jusqu'au jeudi soir à l'Elysée. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient cornaqués du début à la fin, et que tout ça ressemble quand même à une grossière mise en scène. Alors, à laquelle ces jeunes-là ont participé, je pense, très sincèrement. Il ne s'agit pas de dire que ce sont des acteurs ou des actrices, mais par contre, complètement pris dans ce truc-là. Donc là aussi, beaucoup de communication. Sur le Rwanda, qui est vraiment le sujet qui devient incontournable au moment en 2019, au moment des 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, Emmanuel Macron se savait attendu. Il nomme une commission d'historiens présidée par Vincent Duclerc qui doit éplucher les archives et qui fait un rapport assez intéressant à partir des archives dans un temps assez contraint, mais qui dit bon, il y a une responsabilité accablante. Mais il n'y a pas de complicité. Qui dit non, on évacue la dimension de la complicité parce qu'il n'y a pas d'intention qu'il y ait génocide. Les gens qui ont accusé la France de soutenir un génocidaire n'ont pour la plupart jamais dit qu'il y avait d'intention qu'il y ait le génocide. C'était juste de dire qu'on s'est rendu complice en donnant les moyens de faire ce génocide, tout en sachant qu'il était en préparation puis en cours d'exécution. Donc ce rapport, il est insuffisant. Survie vient de sortir des notes de la DGSE qui montrent qu'il y avait des mercenaires, les barbousses de la République, Bob Denard, Paul Baril, qui avaient des équipes en lien, qui grenouillaient là-dedans et dont le rapport ne parle pas. Il les mentionne sans creuser ça. C'est un exemple pour montrer que ce rapport est largement insuffisant. Mais ça, Emmanuel Macron communique à partir de ça. Et donc là aussi, on a des réformes sous Emmanuel Macron, ce qui est un peu nouveau par rapport à ses deux prédécesseurs, sur lesquels il y a une communication ultra efficace, qui est de dire « Regardez, la monnaie, ça change. Ah, l'opération Barkhane, on va y mettre fin, mais en fait, on va conserver le même dispositif, mais on va changer le nom sur le Sahel. Sur les archives, on a... L'histoire est officiellement écrite par l'État français, quelque part, avec une commission d'historiens dûment habilités. Sur les sommets Afrique-France, la même chose. Et puis aussi des promesses de restitution d'œuvres d'art, qui était une vieille revendication de mouvements africains, mais y compris en France, qui luttaient pour ça, et puis des mouvements panafricains, etc. Il a fait de ça un élément de communication en restituant une poignée d'œuvres, et pas du tout dans l'idée même des conclusions du rapport qu'il avait commandé à deux universitaires. Donc en fait, des petites réformes sur lesquelles une communication hyper efficace qui permet... en lâchant du lest sur certains éléments, de maintenir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est au plan militaire, au plan monétaire, au plan des structures de coopération et d'aide au développement qui continuent de favoriser des intérêts économiques français, même si les gens qui travaillent là-dedans essayent intimement de développer, de faire des actions de développement, mais ils sont toujours dans l'injonction contradictoire qu'il faut aussi que ça rapporte au marché français. Et puis une dimension de la culturelle, du rayonnement culturel français, et au travers de la francophonie, de la mise en avant de la francophonie.
Alors, c'est l'expression incroyable qu'il utilise, c'est-à-dire il faut une francophonie de reconquête. Il utilise le mot reconquête, ce qui est quand même génial dans la bouche d'un président français, étant donné le passif de la France en Afrique, on va faire de la reconquête. Et aussi le vieux fond de la fusion franco-africaine qui reste là, cette phrase mémorable dans Jeune Afrique en 2021 où il dit il faut qu'entre l'Afrique et la France soit une histoire d'amour. Bon, le gars il n'est pas sorti de cette idée de couple franco-africain, sauf que c'est un couple totalement asymétrique. C'est vraiment l'homme qui bat sa femme d'une certaine façon. C'est bien comme couple, c'est un amour assez spécial. Parce que...
Radio Campus.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
Imbécile ! Les connards !
106,6.
On a un président qui dit qu'il échappe à ça et qui en fait démontre au quotidien qu'il est imprégné de cet imaginaire colonial. On a ces structures qui continuent depuis finalement l'époque coloniale. On a des réformes en ce moment pour adapter le système, mais pour qu'il perdure, ce qui revient à cette idée centrale dans ce qu'on décrit, nous, de la France-Afrique, qui est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps et du contexte. Et puis, on a un discours pour nous dire que ça n'existe plus parce qu'il y aurait une concurrence étrangère accrue au niveau militaire, ou au niveau économique, mais là aussi c'est pas quelque chose de nouveau, on le documente là-dedans, que les parts de marché des entreprises françaises seraient plus faibles qu'avant. Oui, mais les parts de marché sont plus faibles d'un gâteau qui est beaucoup plus gros, et donc même on cite le président du MEDEF qui dit en fait les volumes d'investissement ont doublé en 10 ans, enfin on cite un autre patron, Alexandre Villegrain, qui dit l'essentiel est que le chiffre d'affaires progresse, enfin, ces gens-là expliquent très bien qu'ils ne perdent pas d'argent en Afrique, donc il y a tout un mythe aussi là-dessus, et puis il y a ce sentiment anti-français, là. C'est, on se réveille en disant mais merde, ils nous aiment pas. L'histoire d'amour, ça marche pas. Et en fait, même ça, c'est pas nouveau. Pendant dans les années 50, il y avait exactement le même constat et qui était documenté dans des archives sur ces questions.
On parlait de Mitterrand tout à l'heure. Il a dans son bouquin Présence française et abandon, je crois, 1957, il dit ça. Il dit on a pas d'amis en Afrique, on a que des concurrents, les Américains. Alors sur son bouquin, c'est un bouquin complotiste. Hein. C'est vraiment assez amusant. Quoi. Il y a des complots partout contre nous et tout. Mais il dit, bon, c'est pas très grave, tant que les Africains nous aiment. On est exactement dans ce genre de truc. Ce qui compte, en réalité, on peut avoir des concurrents, mais tant que les Africains nous aiment, on est bon, quoi.
Je trouve ça assez drôle, là, récemment, la médiatisation minime, mais malgré tout, médiatisation du groupe Wagner, enfin, une espèce de nouvelle tentative russe, une nouvelle forme de... une stratégie russe, et c'est qu'en fait, t'as vraiment l'impression, quand tu lis des trucs, que les gens sont scandalisés, parce qu'en fait, les Russes viennent faire, un peu en loose day, mais pas tant que ça, exactement ce que la France fait. Enfin, genre, ils arrivent, ils sécurisent... avec moins de moyens, quoi. Enfin, avec centaines de mecs...
À l'époque actuelle, c'est plus brutal que ce que fait l'armée française, mais qui tue aussi... Enfin, c'est sûr, plus d'articles, là, sur les exactions de ce groupe de mercenaires russes, que ce soit en Centrafrique ou au Mali... qui sont effectives, hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est de l'invention, ils font ces exactions, c'est vrai que c'est des bourrins, les types, y a des gens qui morflent en face, mais par contre, quand l'armée française tire sur une foule de manifestants désarmés, comme ça a été le cas au Niger fin novembre dernier, là, bah là on voit passer un petit truc ou deux, et puis parce que comme l'armée française dément, l'armée française dément, bah, du coup on n'est pas trop sûr. Peut-être que les Nigériens, ils mentent, en fait, quand ils disent qu'ils ont pris une balle dans la jambe et que... Voilà.
Donc, dans le truc du groupe Wagner, je trouve qu'il y a vraiment ce sentiment que, genre, ils viennent nous piquer nos Africains, quoi. Ils viennent nous piquer nos plans, et puis ils respectent rien, quoi.
Mais en fait, en novembre, un média spécialisé qui s'appelle l'ancienne Lettre du Continent, maintenant Africa Intelligence, avait parlé d'une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, et puis il y avait Angela Merkel qui était là, il y avait d'autres points dans leur conversation téléphonique, mais Macron avait parlé, c'était le moment où il était question que le groupe Wagner se déploie au Mali, et il avait dit, c'était en octobre que ça a eu lieu, ils l'ont révélé début novembre, et il a dit à Vladimir Poutine que la France, si le groupe Wagner se déployait au Mali, la France considérerait que ce serait une agression caractérisée. Donc c'est vraiment, c'est chez nous, quoi. Tu viens pas. Sinon, tu nous agresses, quoi. C'était un peu cette... Enfin, c'est assumé, quoi, dans la psyché de ces gens-là, quoi. Donc,
Il y a la même problématique avec la Chine-Afrique. Oui. Il y a vraiment cette idée... C'est assez intéressant d'étudier l'apparition de ce terme de Chine-Afrique. C'est-à-dire... Il est arrivé au moment où on disait que la France-Afrique, c'est fini. Donc voilà, il y a Chine-Afrique, ça c'est vraiment pas bien. Quoi. Et puis alors, personne, là, s'est interrogé pour dire est-ce que ce terme est pertinent. Là, pour le coup, on finote pas. La Chine-Afrique, c'est pas bien, c'est tout. Et puis ça existe, pour le coup. Bon. Mais on dit, bah oui, mais c'est hyper marrant, quoi, la façon dont ça a été calqué, en fait. Bon, ils font la même chose que nous, mais nous, c'était bien. On est quand même la France, quoi. Bon, donc stop, fin de discussion, la France c'est bien, la Chine c'est pas bien.
Ah, c'est ça le problème, c'est que ce débat qu'il ait lieu en France, qu'il ait lieu dans les pays africains en question, c'est logique, enfin, que s'interroger, enfin voilà, cette concurrence des impérialismes, est-ce que c'est vraiment une opportunité? Il y a un vrai enjeu sur les questions d'endettement vis-à-vis de la Chine, sur la question de la brutalité du groupe Wagner, etc. Mais par contre, qu'en France, on débatte de ça, c'est éminemment malsain, parce que c'est toujours ce truc de « ils prennent notre place », ou c'est « regardez, dès qu'on s'en va, c'est pire ». Donc, il faut qu'on reste. Et c'est un peu...
Ça aussi, c'est vieux. C'est De Gaulle, De Gaulle, en 55, fait une conférence de presse et il dit... on est en 55, donc on est encore à l'époque coloniale. Et il dit, quand même, les Africains... Effectivement, on n'a pas tout fait bien, mais ils ont quand même intérêt à rester avec nous, parce qu'avec les autres, ça va être pire. Et donc, déjà, il y a cette idée que, de toute façon, les Africains ne peuvent pas être souverains. Ça commence par là. vous ne pourrez pas être souverain. Alors à l'époque, on emballe ça dans tout un discours sur l'interdépendance, etc. etc. Vous, bon, on part de l'hypothèse que vous ne pouvez pas être souverain, donc il faut que vous choisissiez vos maîtres. Nous, on est quand même la patrie des droits de l'homme, donc à votre place, je choisirais le bon. On est vraiment encore beaucoup là-dedans, quoi. Effectivement, on ne fait pas toujours tout bien, mais quand même, on est nettement mieux que les autres.
Ce qui est une des caractéristiques du paternalisme, c'est on fait ça pour ton bien, c'est pour te protéger, petit. Voilà. En tout cas, le livre, tout à l'heure tu l'as dit, c'est une somme, c'est 1000 pages, etc. Peut-être que ça vaut quand même le coup de préciser, enfin, dans sa structure, on l'a fait de manière à ce qu'il puisse être lu par fragments,
par différentes entrées.
Une des entrées possibles, si on a moins peur d'un livre de 200 pages que de 1000 pages, c'est de lire les 6 intros de chaque partie chronologique, en fait, qui permettent de balayer l'ensemble de la période en ayant un peu l'essentiel, parce qu'on a fait des intros d'une grosse trentaine de pages pour chaque partie chronologique, et ça permet déjà d'avoir cette vision d'ensemble et de cette mise en perspective historique, de ces continuités dont on parle, etc. Et puis après d'aller creuser tel ou tel chapitre. Ça, c'est
on peut vraiment picorer un peu à droite à gauche.
Différents moyens.
J'avais pas cité que les intros, elles étaient pas. Enfin, parce que je voyais qu'il n'y avait pas la signature sous les intros, là où sous les articles, il y avait.
Les articles sont signés des contributeurs et contributrices, on est 26 au total. Et les 6 intros de partie sont signés des 4 co-directeurs.
D'accord, ok.
C'est okay. Les co-directeurs qui assument la responsabilité. Non, les auteurs et autrices assument les contributeurs et contributrices autres que les co-directeurs assument juste les chapitres ou les encadrés qui portent leur signature.
Non, ce qui est intéressant aussi, on n'a pas assez parlé de ça, c'est qu'effectivement c'est une équipe assez hétéroclite. C'est-à-dire, il y a des universitaires, des jeunes, des moins jeunes, et voilà, il y a des militants, des gens qui s'assument comme militants, notamment de l'association Survie, mais d'autres.
Des journalistes
d'investigation, etc. On a essayé, et le point commun de tous ces gens, c'est, enfin, selon nous, c'est des gens qui ne rejettent pas le concept de France-Afrique. Ils considèrent que c'est un outil utile pour comprendre la spécificité dont on essaie de parler. C'est-à-dire, il y a une vraie spécificité française dans le rapport à l'Afrique. Et c'est pour ça que le terme, pour revenir au début de la discussion, le terme France-Afrique est intéressant parce qu'il permet de se distinguer de ce qu'on pourrait appeler, par exemple, je sais pas, les relations germano-africaines. Elles ne sont pas du tout de la même nature que les relations franco-africaines. Si on dit relations franco-africaines, on a l'impression que c'est une forme de normalité dans les relations internationales. Or, on est dans une forme d'anormalité, voire de pathologie, en fait. On parlait de toxicité, et c'est là que le terme est intéressant à investir pour montrer qu'il y a une spécificité. Il y a une exception française dans la relation à l'Afrique qui s'inscrit dans une histoire de long terme. Donc, globalement, c'est ça qu'on essaie de montrer, de documenter dans le livre.
Moi, j'ai une question pourrie de faussement journalistique pour la fin, mais donc là, en fait, dans le livre, vous couvrez, vous couvrez 70 ans de France-Afrique. Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, vous allez devoir réécrire 5 chapitres supplémentaires ou 10, ou au contraire, que vous devrez écrire un livre qui s'appellera L'Empire qui est finalement mort? Comment est-ce que vous...
Une excellente question de journaliste,
en effet. Non, pas la boule de cristal, par contre, il y a 20 ans, 22 ans, il y a un livre quasi de cette épaisseur qui est sorti de François-Xavier Verschoeff qui s'appelait Noir Silence, qui arrêtera la France-Afrique. Et je crois que c'est là-dedans, ou alors c'était dans un autre écrit à peu près simultané, où il disait que la France-Afrique d'ici 10 ans aura disparu. Et il tient qu'à nous, Français et Françaises, de faire que ça aille plus vite, quoi. Donc en 2000, il disait d'ici 10 ans. Nous, 20 ans après, on dit on y est toujours et on y est toujours bien, quoi. Et donc c'est compliqué. Enfin, on n'a pas de boule de cristal. La question, c'est que les choses vont évoluer lentement, mais elles vont aussi évoluer par les résistances. Enfin, elles évolueront plus vite par les résistances africaines. Parce qu'il se passe ici, là, de ce qu'on peut sentir dans la société.
Enfin, ma formulation était volontairement débile, mais le fond l'est pas. C'est-à-dire que, au-delà de la question un peu militante de ça serait bien que ce soit qu'on en finisse avec la France-Afrique, on peut avoir le sentiment ou non que ça bat son plein et que toutes les nouvelles stratégies marchent trop bien, ou au contraire ça part en Suisse. C'est un petit peu partout en Afrique, ou alors qu'il va y avoir de nouvelles stratégies économiques partout dans le... Enfin, vous pourriez avoir un peu une
espèce de... Non, on ne fait pas de prospective. Par contre, la question, c'est est-ce que dans 20 ans, le racisme aura disparu en France? Parce qu'en fait, la matrice de tout ça, c'est le racisme. À partir du moment, en posant cette question, on comprend bien, on a un peu du mal à se dire, dans 20 ans, il n'y a plus de racisme. Surtout en ce moment-là, on le sent bien. Mais au-delà du racisme décomplexé des pro-Zemmour, enfin, nous on parle d'un racisme qui est plus profond, structurel, imprégné.
La question, c'est un truc qui est très intéressant, c'est que ces indépendances qu'on a appelées la décolonisation, elle est totalement factice du côté africain, mais elle est surtout totalement factice du côté français. Les gens ne se sont pas décolonisés, la société française ne s'est pas décolonisée. C'est une des raisons pour laquelle on est toujours dans cette thématique de le colonialisme n'est pas mort, quoi. Donc la France-Afrique est une des formes du colonialisme aujourd'hui, quoi, contemporain. C'est une des émanations du colonialisme contemporain. Mais la question, c'est comment décoloniser véritablement les sociétés impériales, quoi, les désimpérialiser nos regards sur le monde, quoi. Et là, le chantier est gigantesque. Et je pense que dans 20 ans, malheureusement, on y sera encore, quoi. C'est un combat permanent.
Oui, et ce qui relève par ailleurs probablement moins de bons ou mauvais sentiments racistes ou antiracistes que de la structure même du monde de l'économie, qui est un truc de prédation, qui est une logique de prédation, de destruction, d'accaparement. Qui s'imbrique absolument avec la question du racisme. Mais...
Oui, mais qui s'imbrique, mais qui n'est pas... Enfin, je pense qu'il ne faudrait pas réduire uniquement à la logique de l'intérêt capitaliste ce qui se passe là-dedans. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire et de l'imprégné au même titre que le machisme et la domination masculine, quoi. Sur des choses qui évoluent que très, très, très lentement.
Mais il y a un parallèle que je fais de temps en temps, c'est les gens qui disent « la France-Afrique, c'est fini », ça me fait vraiment penser à, justement, dans les combats féministes, quoi, le mythe de l'égalité déjà là. Ah oui, bon, vous avez eu le droit de vote, chère femme, donc maintenant vous arrêtez de revendiquer. Ah, vous avez eu le droit à l'avortement, donc vous arrêtez. Il y a eu la parité, donc c'est fini. Bon, allez, vous arrêtez de revendiquer. Il y a un peu le discours qui dit la France-Afrique est terminée, c'est un peu un discours d'injonction aux Africains, en disant, bon, maintenant ça y est, quoi, on est des partenaires d'ego à égaux. Bah non, le combat, il continue, en fait.
La politique Afrique, Amérique, Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France, Afrique, c'est du blague et tu es. La politique Amérique, Afrique, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Ils vont nous blaguer et tu es. Blague et tu es, la 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 la, ils veulent nous blaguer et tu es. Blague et tu es. Tout va pour nous, non, bah nous blague et tu es. Blague et tu es, la 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 la.
Radio Campus 106,6.